Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est parti, ça record.
Salut tout le monde. Salut.
C'était marrant d'introduire comme ça.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séances Radio pour cet épisode numéro 2 de Fan Footage, le podcast. J'espère que vous allez bien. Nous, à merveille, puisque nous sommes aujourd'hui confortablement installés autour d'un verre au bar le numéro 21 à Levallois pour parler du très attendu The Shape of Water, La Forme de l'Eau, le nouveau long-métrage polémique signé Guillermo del Toro. Et quand je dis polémique, vous avez bien entendu, puisqu'avant d'évoquer justement toutes les accusations dont vous avez peut-être eu vent à propos de plagiat, nous allons d'abord bavarder de cette formidable œuvre cinématographique en compagnie de mon ami, le sémillant Pierre Delors de Fan Footage.
Sémillant, ça me correspond très bien.
Salut Pierre, ça va?
Salut.
Et notre récurrente, Ilan Ferry de Cinévibe.fr.
Salut Ilan.
Salut Thomas.
Tu t'y attendais pas à celle-là?
Ah non.
Allez, c'est parti, prenez place.
Bon. Cette mission, c'est quoi ?
Mimic, L'Échine du Diable, Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim ou encore Crimson Peak, Guillermo del Toro n'en finit plus de nous embarquer dans d'incroyables univers fantastiques. Et c'est encore le cas cette année avec ce film qui se situe en 1962 pendant la guerre froide et qui nous conte la romance extraordinaire et a priori impossible entre la muette Elisa, incarnée par Sally Hawkins, modeste agent d'entretien pour un laboratoire secret de la défense américaine, et une créature amphibienne capturée en Amazonie, interprétée par Doug Jones. Le film est déjà Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, il a déjà récolté 2 Golden Globes et il totalise déjà 13 nominations aux prochains Oscars. J'ai une question simple, messieurs, est-ce que Guillermo del Toro vient de signer son chef-d'œuvre ? Qui veut commencer ? Ilan, allez, vas-y, je t'en prie.
Moi je suis un peu embêté. Ah, très embêté.
Très bien.
Parce que je suis un fan absolu de Guillermo del Toro, de son univers, de ses histoires. Je trouve même des circonstances atténuantes à ses films qu'on va dire les plus faiblards. Je suis du genre à avoir aimé Crimson Peak.
D'accord.
Et là, je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre. Je m'attendais au film le plus personnel de Guillermo del Toro, celui qui nous embarquerait vraiment, véritablement ailleurs. Et j'ai aimé le film,
ouais,
mais j'ai pas été transporté. En tout cas, pas comme j'aurais voulu.
D'accord.
La direction artistique est magnifique. Tout l'hommage au cinéma à l'âge d'or hollywoodien est très beau. On sent que c'est le film d'un amoureux du cinéma.
Mmh.
Et la relation entre les deux personnages est jolie, mais il manque quelque chose.
Il manque un truc pour toi ?
Ouais. Pour moi, il manque un truc. Je pense que quelque chose un peu de l'ordre du merveilleux. J'ai l'impression qu'il s'est bridé en fait sur ce film.
Tu crois pas tellement à cette histoire ?
J'ai eu du mal. J'ai eu du mal en dehors du caractère totalement improbable de la chose. Je pense qu'il manquait, quelque chose.
D'accord. Alors pour la petite histoire quand même, on l'a vu ensemble et c'est vrai que t'étais à ma gauche et je t'ai vu bailler par moment.
Oh là là, mais quel scandale.
Non, non,
tu diras pas le contraire. T'étais fatigué peut-être.
C'était du bâillement d'admiration.
Ah bon, d'accord, ok. Donc pas plus transporté que ça, pas plus...
J'ai aimé, mais j'aurais aimé être surpris, transporté. J'ai juste aimé.
Très bien. Pierre ?
Bah écoutez, les gars, moi je crois que le premier mot que j'ai prononcé en sortant de la salle, c'était sublime. J'ai vraiment trouvé le film absolument sublime. Et je m'attendais à ce qu'on ait tous le même avis autour de la table. Comme quoi, voilà, personne n'est parfait. Le truc, c'est que moi j'ai trouvé vraiment le film magnifique. C'est un très très beau film. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Si je pinaille un petit peu, il y a peut-être un détail ci ou là. On va y revenir, de toute façon on va en discuter.
Mmh.
Moi j'ai quasiment rien à redire sur le film, j'ai trouvé ça absolument merveilleux, c'est très beau. Effectivement, il y a quand même une dimension très personnelle. Guillermo del Toro, c'est un amoureux du cinéma, mais c'est pas juste un amoureux du cinéma, c'est un amoureux de l'esthétique, du cinéma de genre, d'une certaine époque, des films de créatures de son enfance,
ouais.
Des films de créatures classiques de la Hammer des années 50, inspirés par la créature du Lagon Noir de 1954, on l'a beaucoup cité.
Évidemment.
On retrouve aussi des influences beaucoup plus récentes. Je me souviens à l'époque des toutes premières bandes annonces. J'étais, comme d'ailleurs beaucoup d'autres internautes, persuadé que le film serait une espèce de spin-off de Hellboy, puisque on croyait reconnaître en l'apparition de la créature sous-marine le personnage d'Ape Sapien, voilà, qui est donc une créature amphibienne qui ressemble un peu à la créature de Shape of Water.
Ouais, quand même.
Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas ça. Je sais pas si dans la direction artistique, Mike Mignola, l'auteur derrière Hellboy, a été impliqué dans le design de la créature.
J'ai pas vu passer ça. Hein.
J'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas, on sent qu'il y a énormément d'influences personnelles. Il y a des scènes qui se passent dans des cinémas, il y a cette esthétique aussi un petit peu rétro de l'Amérique d'une certaine époque à laquelle je pense il est assez attaché.
1962, hein, le film se déroule.
Et je crois que Thomas aussi, on n'a pas voulu en discuter se préserver pour le podcast.
Contrairement à Black Panther, mais moi j'ai trouvé ça vraiment, mais je le disais dans mon introduction, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est une histoire vraiment incroyable et c'est vrai que ça va être compliqué auprès du grand public de faire croire à ça, parce que si tu ne crois pas à cette histoire complètement extraordinaire, le film tombe à plat totalement, quoi. Et j'ai peur de ça, et j'espère que le bouche à oreille sera bon, que les spectateurs auront quand même une certaine ouverture d'esprit malgré tout, parce qu'on est dans le mythe un peu de la Belle et la Bête, hein, quelque part. Donc poétique, il convoque plein d'autres genres, le film d'espionnage, c'est Sally Hawkins qui joue Elisa. Enfin, muette et qui fait tout passer par le regard.
Le casting est remarquable, hein, vraiment.
Michael Shannon.
Ah, Michael Shannon, il en voit.
Nom de Dieu, quel salopard.
Très inquiétant. Ouais.
Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout, tu vois. C'est que Guillermo del Toro a mis dans le film beaucoup de ses inquiétudes ou de ses opinions traitées avec une certaine finesse, hein, politique. Et c'est des réponses aussi au climat actuel. On parlait l'autre jour de Black Panther et de qu'est-ce que c'est qu'un film progressiste. Il y a énormément d'idées tout à fait progressistes dans le film.
Absolument.
Et Michael Shannon incarne une espèce de vision de l'Amérique, l'Amérique blanche républicaine intransigeante. Et au final, c'est un personnage absolument affreux qui est persuadé d'être dans son bon droit et qui en fait est une ordure. On va pas en dire tellement plus.
Et la pire ordure. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce personnage de Michael Shannon, c'est qu'on n'a pas besoin de nous l'expliquer, de plus nous l'expliquer que ça. Je veux dire, il a la gueule de l'emploi. On sait que le mec a été parachuté. Donc ça se passe à Baltimore. Il a été parachuté dans ce laboratoire pour superviser l'arrivée de la créature pour les expériences, etc. Et on sent déjà que ça le fait chier de venir à Baltimore, il fait que flotter, tu vois. Et lui, il a qu'une hâte, c'est de retrouver sa femme, son gosse, son foyer, avoir une Cadillac et de faire l'amour à sa femme de la plus belle des manières.
Mais c'est ça, il représente cette Amérique hyper masculine, obsédée par cette grosse voiture, qui a des rapports avec sa femme absolument désastreux et qui est dans une espèce il affiche sa réussite sociale de la manière la plus matérialiste possible. Il est violent, il est raciste, il est misogyne.
Ouais.
Et à côté de ça, c'est un film qui, pour personnages principaux, s'intéresse aux petites gens, s'intéresse à une des employées de ménage, une employée de ménage muette avec un nom hispanisant, une employée de ménage afro-américaine.
Raciste, faut préciser qu'il y a Octavia Spencer qui joue.
Il y a un personnage vieillissant aussi d'artiste
qui est magnifique
et qui se révèle homosexuel.
Qui est hyper touchant.
Et sur la romance en elle-même, moi pour le coup, alors du coup, Ilan, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'y ai cru à fond, quoi.
Ah non, c'est pas une question de pas y croire. Attention, j'ai aimé le film. C'est juste, si vous voulez, j'ai trouvé le film très beau. Il y avait des moments de grâce qui étaient absolument magnifiques. Il y a deux, trois moments où, effectivement, j'ai eu des petits frissons. Thomas, il les a pas vus parce que c'était peut-être lui qui baillait à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, j'étais à fond.
Si je sais que tu as eu des frissons parce que je t'ai touché.
Ah, c'était ça, d'accord.
La romance a marché.
Là, je me sentais tout mouillé.
Doucement.
mais très sérieusement, voilà. J'ai trouvé le film très beau. Mais peut-être parce qu'on me l'a survendu comme étant le meilleur film de Del Toro depuis, on va dire, je sais pas, Les Chines du Diable ou le Labyrinthe de Pan, peut-être que je m'attendais à plus. Mais le film est très bien, mais j'en attendais plus. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a particulièrement touché dans le film, surtout, c'est que, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un film d'amoureux du cinéma.
Oui, voilà.
Et ça, j'ai trouvé ça très beau. J'étais plus touché peut-être par cet hommage qu'il rend à l'âge d'or hollywoodien, ce lien qu'il a avec ce cinéma-là qui est très fort, que par l'histoire d'amour qui est belle. Mais moi, j'ai vu le Guillermo del Toro enfant, et c'est plutôt ça qui m'a touché. Guillermo enfant qui joue avec ses jouets.
Non, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je trouve qu'il a réussi quelque chose.
J'aurais plutôt tendance à dire qu'il joue avec ses jouets pour Pacific Rim. Là, qui joue avec ses jouets. Enfin, là, j'ai l'impression de
ça, qu'il retrouve ses plaisirs et ses amours d'enfance.
Non, comme tu dis, c'est beaucoup plus Pacific Rim.
Mais cette romance, cette créature, c'était aussi ça le challenge, c'était de faire croire au grand public qui n'a pas nécessairement l'habitude de ce type de récit, de faire croire à cette histoire d'amour, de faire croire que ce personnage d'humaine puisse tomber amoureuse et avoir du désir envers cette créature sous-marine qui est un espèce d'homme poisson, faut dire ce qu'il est, et qui pour le coup est très très belle. Et là, il faut quand même souligner le fait que le costume, le design et le travail de VFX, de maquillage et de création de costumes en latex qui a été fait pour la créature est absolument exceptionnel. Je pense sincèrement que c'est une des plus belles créatures en termes de pur accomplissement technique déjà, qui ait pu. Bien sûr, il y a l'avancement de la technologie, mais c'est l'une des plus belles créatures qui ait jamais. Moi, j'ai pu voir.
J'ai essayé à chaque fois que cette créature, donc incarnée par Doug Jones, acteur très physique.
Doug Jones qu'on retrouvait dans le costume d'autres créatures dans les précédents films.
Il était
notamment le Pan dans le Pan dans le labyrinthe.
Oui, exactement. Et il est également, on le voit actuellement sur Netflix dans Star Trek où il joue.
Et ça vient de Hellboy.
Sa rue. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur le costume, sur le maquillage, etc., j'ai bêtement, tu vois, quand il est en mouvement, j'ai essayé de voir les pliures.
Ah ouais, non,
c'est une deuxième peau, parfait, vraiment, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Je pense qu'il y a eu un petit peu d'assistance d'effets spéciaux par ordinateur, notamment sur les yeux.
Sur les yeux.
Sans doute. Mais ce qui est normal, le but, c'est d'avoir la fusion des deux pour que ça devienne absolument naturel et qu'on se rende compte de rien.
Le scénario est écrit par Vanessa Taylor, qui l'aurait cru, auteur de Divergente.
Ah oui, ah bah d'accord.
Ah oui.
Comme quoi, tu vois.
Mais inspiré aussi par un des collaborateurs de Del Toro.
Oui, Daniel Krauss, qui fin 2011 avait pitché le film, une idée comme ça à Guillermo Del Toro lors d'un déjeuner, et Guillermo Del Toro a sauté sur l'occasion et lui a racheté le pitch du film, et après ils ont développé le scénario.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un tout petit budget. C'est même pas 20 millions de dollars, c'est 19,5 millions de dollars environ. Il y a quand même une certaine ampleur, une richesse visuelle assez conséquente.
Ah oui, qui est
un costume magnifique. Bien sûr, on est aidé par la mise en scène de Del Toro, par des comédiens qui sont tous absolument remarquables. Mais il y a une richesse visuelle et même une puissance évocatrice visuelle qu'on retrouve pas même dans des films. On m'a encore tapé sur Marvel, désolé. Mais des films à 190 millions, quoi. C'est quand même assez démentiel. Et là, c'est un film qui est, je veux dire, une comédie avec Danny Boone, c'est presque ce budget-là en France. Hein.
19 millions, il a déjà rapporté presque 75 millions, puisque il est sorti aux États-Unis en décembre, le 1er décembre, donc juste avant les Oscars. Et 13 nominations aux Oscars. Est-ce qu'il a ses chances d'ailleurs? 13 nominations, est-ce qu'un film de genre de cette facture peut égaler un Retour du Roi, un Titanic, en termes de moisson?
Alors, s'il le fait, si c'est le cas, ce serait extrêmement couillu, parce que clairement, Guillermo del Toro, enfin, non pas clairement justement, on va dire que Guillermo del Toro a un peu fait son film pour les Oscars, mais c'est un film à Oscar mais très bizarre, et c'est ça qui serait intéressant.
J'aime pas cette définition du film à Oscar, parce que c'est un auteur tellement fort que je pense pas qu'il résonne comme ça.
Non, j'ai pas dit qu'il résonnait comme ça. Quand je dis que c'est un film à Oscar, je veux dire, tel qu'il est actuellement, c'est un film qui est
une voie toute tracée,
si tu veux. Mais c'est pas un film qui a été pensé pour les Oscars, si tu veux. Je pense pas ça. Je pense absolument pas ça de Del Toro. Je pense pas que ce soit le genre. Mais si, effectivement, il vient cette espèce de machine à Oscar malgré elle.
De toute façon, ils vont vendre le film comme ça, quand il va sortir.
S'il rafle tout, ce serait extrêmement couillu, parce que c'est un film qui est étrange, dans le bon sens du terme, et qui détonnerait totalement dans le paysage des films oscarisés de ces 10 dernières années, voire 15 dernières années. Donc ce serait un pari extrêmement couillu.
Disons qu'avec ces nominations, il est possible aussi que l'Académie soit dans une espèce de démarche de se chercher une crédibilité
auprès du grand public,
d'afficher une certaine ouverture d'esprit, d'inviter Del Toro, qui est quand même un cinéaste assez reconnu. Chez Paul Water, c'est présenté aussi comme une romance, une espèce de conte moderne, donc ouais, ça passe bien plus auprès des votants. Moi, ce que je me demandais, et je revenais un petit peu sur ce que tu disais, on te l'avait présenté comme le plus grand Del Toro de tous les temps, etc. Je pense quand même qu'il y a une partie du public, ou en tout cas de ceux qui l'ont vu, qui n'étaient pas habitués à avoir ce type de récit, ce type de film qui met en scène des créatures fantastiques, traitées avec autant de finesse,
de sincérité,
de beauté, de poésie. Et du coup, ça a pu probablement les heurter dans le bon sens du terme. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça crée cette espèce d'emballement critique qui, pour moi, le film le mérite amplement.
Il faut quand même resituer hein, le film, le buzz, le bon buzz du film.
Il y a un très très bon buzz.
Est parti depuis la Mostra fin août. C'est là que tout a commencé. C'est un festival au départ. Donc, bon, effectivement, les critiques étaient dithyrambiques. Et là, bon, après, c'est parti.
Après, si on veut vraiment être pointilleux, je trouve que donc c'est Alexandre Desplat qui, alors je sais jamais si on dit Desplat ou
Desplat,
a priori. Alexandre Desplat qui a composé la bande-son, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je trouve qu'elle est un petit peu en retrait. Elle est tout à fait agréable, jolie. Je sais que les compositeurs n'aiment pas qu'on définisse leur bande-son comme jolie.
Non.
Désolé, je vais être très simpliste.
Ouais,
mais... la bande-son est très agréable, très jolie, mais je trouve pas qu'elle apporte une dimension supplémentaire au film. Il y a des petites notes d'accordéon.
Oui, parce ça lui rajoute. Bon,
ça colle à cet esprit un petit
européen.
Européen, ou retrouver cet esprit de la romance d'une certaine époque. Après, je trouve pas que ce soit une bande-son absolument extraordinaire. Alexandre Desplat a nettement fait mieux. Et je dirais aussi que voilà, je sais que moi je suis très sensible aux accents. Il y a un personnage en particulier qui est un acteur américain qui, à un moment, incarne un personnage russe et qui parle en russe. Alors, je salue l'effort parce que c'est un acteur américain qui a dû apprendre du russe et qui a certainement été coaché et ça fonctionne.
Ah, moi, j'étais persuadé qu'il était russe, tu vois.
Le
casting.
J'ai un petit peu une certaine détestation des accents russes à deux balles ou des accents, les accents en général à deux balles que prennent des acteurs anglo-saxons quand ils jouent d'autres nationalités. Là, c'est pas ce qui se fait de pire. Bon, de temps en temps, ça a un petit peu heurté mon oreille sensible. Mais ça passe.
Bon.
Et le personnage est très bien d'ailleurs.
Ouais.
Très touchant.
Ouais. C'est un élément pivot du récit d'ailleurs. The Shape of Water, Guillermo del Toro. Est-ce que vous voulez mettre une note? Tiens.
Sur combien?
Sur 10, tiens.
Sur 10?
Oui. 17 ans le chef-d'œuvre.
Ah, 17 ans le chef-d'œuvre. Bah écoute.
Je vais mettre un bon 9,5 quand même.
On a droit aux virgules.
Ouais, t'as droit aux virgules. Je pense que je suis à 8,5 moi pour l'instant.
On est
à chaud donc c'est difficile.
Mais n'aie pas peur, Ilan. Entre
amis, c'est normal. Mais ouais. Je vais mettre
7,5.
Parce que je le pense sincèrement.
Bon, très bien.
C'est déjà pas mal. Mais je pense que Jean-Pierre Jeunet lui collerait un 4.
Alors Jean-Pierre Jeunet, on va en parler d'ici quelques instants. En attendant, voilà, vous pouvez le retrouver à l'affiche. The Shape of Water, La Forme de l'Eau, c'est chaudement recommandé par le
peuple. Très chaudement,
oui. Allez-y. Je vous le disais en ouverture, The Shape of Water est dans la tourmente hein, puisqu'il est accusé de plagiat par Jean-Pierre Jeunet lui-même qui lui reproche d'avoir repris une scène de Délicatessen. Le réalisateur français lui a carrément envoyé un mail, hein, je crois, d'après ce que j'ai lu.
Oui, il est assez virulent.
Hein. Lui reprochant d'avoir repompé une scène en particulier, si j'ai bien lu l'histoire. Une scène en particulier de Délicatessen qui serait vraiment, plan pour plan, la même que dans La Forme de l'Eau.
Mais en fait, notre fameux Jean-Pierre Jeunet national, exactement, a accusé Guillermo del Toro assez violemment. Hein. Il lui a carrément dit qu'il avait repompé, on va en parler, une scène précise de son film Délicatessen de 1991, qui est un peu un incontournable.
Ouais.
Du cinéma de genre français et de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet. Il l'a accusé de n'avoir, je crois, aucun amour propre, de construire ses films en piquant les idées des autres.
Exact, voilà, c'est ça que j'ai dit.
Il lui a écrit un mail, il y a eu un petit échange hein, entre les deux. Jean-Pierre Jeunet a l'air assez remonté. J'ai pas l'impression que ça aille jusqu'au procès. Je crois qu'il avait dit qu'il n'irait pas jusqu'au procès, il s'arrêtait là. Il a juste poussé un gros coup de gueule. Ce qu'il lui reproche, c'est cette scène en particulier. Celles et ceux qui nous écoutent ont peut-être pas encore vu le film. C'est une scène, ça spoile pas, on peut en parler, hein, c'est très simple. C'est une scène où deux personnages, un homme et une femme, dans The Shape of Water. Donc l'héroïne Elisa et son voisin qui est un vieil homme sont assis sur un canapé.
Richard Jenkins.
Ils regardent un vieux téléfilm, un vieux musical à la télévision en noir et blanc.
Ouais.
Et alors qu'ils sont assis, qu'ils ne bougent pas, simplement avec leurs jambes et leurs pieds, ils se mettent à faire des petits pas de danse, des claquettes et à danser, faire une petite chorégraphie entre eux dans leur salon. Et effectivement, il y a une scène en délicatessen qui est étrangement similaire.
Ah,
et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a Dominique Pinon et je ne sais plus quelle comédienne qui sont assis sur un lit tous les deux. Ils regardent un vieux film, un vieux musical en noir et blanc et ils ne bougent pas. Ils font que danser avec leurs pieds dans leur salon.
Un peu comme Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land aussi quand ils font leur danse.
Jean-Pierre Jeunet s'est attaqué à La La Land.
Attends. Mais en fait, il y a un peu de La La Land dans The Shape of Water, vous verrez, chers amis.
Même carrément.
Je ne sais pas.
Je ne partage pas cet avis. Mais c'est très difficile de savoir. En fait, le truc, c'est que moi, je ne crois pas du tout au plagiat.
Non.
Le Guillermo del Toro n'a pas besoin de ça. Et je pense que Jean-Pierre Jeunet a un peu pris la mouche. Effectivement, la scène est très semblable. Le truc, c'est qu'il y a déjà. Bon, Guillermo del Toro a répondu. Hein, c'est-à-dire qu'il a montré que déjà cette scène, elle était pensée depuis des années. C'est un projet qui traîne dans sa tête depuis très longtemps.
Oui.
Qu'elle est notamment inspirée par un classique du cinéma britannique qui s'appelle The Red Shoes de 1948. C'est un film de. C'est Michael Powell et Eric Pressburger, c'est ça?
Pressburger, oui.
Le truc, c'est que tout le décor, tout l'univers est inspiré directement de ce film, qui est un grand classique du cinéma britannique. Après, c'est vrai que la scène est très, très semblable. Et Guillermo del Toro a fini par avouer à demi-mot que peut-être il avait eu une inspiration inconsciente.
Ouais.
Ce qu'il disait, c'est que lui et Jeunet sont tous les deux des grands fans de Terry Gilliam. Et que Del Toro puise régulièrement dans Terry Gilliam et Jeunet sans doute aussi.
Puis,
et que du coup, il y a eu des influences communes. Ils n'ont pas non plus une grande différence d'âge. Enfin, c'est 10 ans de différence d'âge, mais ils ont probablement des influences communes.
C'est des deux créateurs d'univers.
Et même s'il y a eu. Si Guillermo del Toro s'est inspiré consciemment ou pas de cette scène de Delicatessen qu'il a peut-être vue il y a des années, j'imagine qu'il est tout à fait fan de La Cité des Enfants Perdus, par exemple.
Ouais.
Je trouve qu'on est plus dans la citation que le plagiat, faut pas exagérer.
Ouais, c'est ça qu'il faut bien effectivement distinguer.
Et c'est amené avec beaucoup d'intimité, beaucoup d'humanité, beaucoup de sincérité. Mais en fait, le truc, c'est que The Shape of Water, il fait partie de ces grands films de genre qui soudainement sortent à un moment. En plus, là, il est oscarisé. Et bim, on leur tombe dessus avec des histoires de plagiat comme par hasard. Alors, on s'attaque pas à tous les vrais, véritables plagiats qui sortent régulièrement au cinéma.
Pour revenir à la fameuse scène plagiée avec Delicatessen, je pense. Pas effectivement qu'il s'agit de plagiat, mais je pense que dans le cadre du film, c'est quelque chose qui est totalement en accord avec la thématique du film, qui est sur les non-dits.
Oui.
Parce que c'est la
vrai.
Forme de l'eau, c'est une histoire d'amour c'est sans parole.
Sur le langage.
Et le film est beaucoup parle entre guillemets, mais l'un des thèmes centraux du film, c'est le langage corporel. Le film joue beaucoup là-dessus, et je pense que si. Cette fameuse scène polémique ouais. a au moins le mérite d'être cohérente avec l'une des thématiques centrales du film.
C'est passionnant et c'est très beau. C'est ce rapport entre un être humain et une créature. Et l'héroïne est muette, la créature ne sait pas parler, c'est un homme poisson. Et il y a ce rapport et cet amour entre les deux qui ne s'exprime que corporellement. C'est vraiment très beau. Par les gestes. Ouais.
Que par les gestes, que par les regards. Et justement, c'est intéressant d'avoir cet aspect-là du film de créature, du rapport de l'homme à la créature. Puisqu'aujourd'hui, quand même, si on fait un état des lieux des films d'horreur et des films de monstres, de créatures, quand même.
Le film de créatures, voilà.
Le film de créatures, on va dire. On est quand même très loin de cette poésie que Guillermo del Toro nous offre. On est toujours dans des trucs hyper bourrins maintenant.
Je dirais même que c'est un genre quasiment disparu. Hein. Le film de créatures, ça n'existe pratiquement plus. Il y a un exemple par-ci par-là. C'est Peanuts. Hein.
Ouais. Bah, il suffit de voir ce que Universal a essayé de faire là avec.
Le Universal Monster Universe. Hein. C'est intéressant parce que le film de créatures, alors on a immédiatement des exemples en tête si on part des exemples les plus entre guillemets récents, parce que ça date quand même de fin 70 ou années 80 ou années 90. Mais immédiatement, on est dans ce rapport donc entre l'être humain qui est confronté à une créature inconnue ou pas. Ça peut être un monstre de la mythologie classique comme un loup-garou, un vampire, ça peut être une créature extraterrestre.
Ah, alors attention, pour Guillermo del Toro, un vampire n'est pas une créature.
Mais alors j'allais y revenir, je pensais pas à Dracula, mais je pensais à Nosferatu par exemple, qui est entre le monstre et la créature et Murnau avait designé son vampire comme une la fusion entre un homme et un rat. On était vraiment dans la créature, même visuellement.
Oui, c'est une anomalie biologique.
Bon, pour le
c'est,
coup,
enfin, c'est sa définition en tout cas lui.
Et on pense le film de créature, c'est l'homme qui se retrouve face à l'inconnu et face au monstrueux. Et donc on a Alien évidemment, Predator, on a le loup-garou de Londres, on a
la mouche,
la mouche, ouais, qui est un homme qui devient une créature.
Bien sûr.
On a The Thing, mm-hmm. qui est un des films de créature les plus extraordinaires qui ait jamais existé. On avait après tous les petits dérivés d'Alien, c'est-à-dire que quand Alien est sorti, tout le monde s'est dit bah tiens on va faire Alien aussi mais à notre sauce, donc Alien sous l'eau, Alien dans la forêt, Alien dans les égouts,
Alien on Ice,
Alien on Ice. Ça aurait été énorme. En plus on est à la période des JO d'hiver.
Moi j'y vais en direct, hein, je veux voir ça.
Mais par exemple Léviathan qui est un espèce de navet, je vous encourage à aller voir Léviathan, c'est un peu naze, mais c'est un Alien sous l'eau mélangé à The Thing, c'est très surprenant. Mais et en fait le film de créature a quand même une histoire. C'est-à-dire que quand on remonte dans l'historique du cinéma d'horreur, on avait la fameuse créature du Lagon Noir,
ouais.
Tous ces films de la Hammer, on avait ces loups-garous, la momie, Frankenstein. C'est passionnant en fait le rapport de l'homme à la créature. Simplement, le cinéma a changé et à part dans la science-fiction, on retrouve de temps en temps quelques créatures. C'est quelque chose qui a quasiment disparu. Il y a pas beaucoup de mecs en costume en latex ou aujourd'hui, enfin ça me dit pas grand-chose.
Bah, quand tu dis cinéma de science-fiction, pour le coup, on est plus sur des entités extraterrestres, j'ai l'impression que des créatures qui ont pour base biologique notre corps.
Oui, mais la créature humain. C'est vaste.
Oui.
Alien par exemple, c'est un film de créature et c'est quelque chose justement d'alien pur et dur.
Exact. Ouais, c'est vrai.
Il y a cette idée d'incarner les peurs de l'homme.
Voilà.
Parce qu'elle soit organique ou poilue, si j'ai envie de dire. La créature, le monstre fait peur. Alors que dans The Shape of Water, on a les deux. On a le monstre qui fait peur, mais à tort, et le monstre qui séduit.
Et qui devient source de désir.
Exactement.
Voilà,
ce qu'on ne voit pas souvent, est tout à fait source de désir. Ce qu'on ne voit pas souvent dans le cinéma de genre. Et ça veut dire quelque chose sur ce qu'est la créature aujourd'hui.
Mais sur ce que représente la créature aujourd'hui, c'est peut-être assez symptomatique de la vision de l'autre dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a une époque. On n'est pas tout à fait dans la créature, mais il y a une époque, le vampire faisait peur. Et à un moment, le vampire est devenu une source. Et l'aboutissement ultime en est peut-être Twilight ou même Underworld, dans une certaine mesure. C'est que le vampire devient une source de. Même on s'habille comme eux, on veut être comme eux, ça devient cool d'être un vampire. Le loup-garou ne fait plus tellement peur. Le loup-garou, autrefois, c'était le diable. Et quand Joe Johnston s'est attaqué au mythe du loup-garou avec son remake de The Wolfman, c'était quoi?
Revoyez-le, les amis.
2010, je pense.
Ouais,
globalement, la critique a été assez mauvaise. Moi, je sais que j'aime beaucoup le film. Et je trouve que le maquillage de. C'est pas Guillermo del Toro cette fois, c'est Benicio del Toro. Est absolument formidable.
Rick Baker.
Rick Baker, un des grands faiseurs du maquillage.
Rick Baker qui était arrivé tardivement sur le film d'ailleurs.
Ouais, mais Rick Baker aujourd'hui, qui est un des grands faiseurs de maquillage de cinéma et de cinéma d'horreur, Rick Baker aujourd'hui, il a pris sa retraite.
Ah oui, oui.
Il a plus de boulot.
Non, non. Terminé.
Parce qu'il y a quelques exemples récents. Je sais que ouais, Ilan, tout à l'heure, tu me parlais de Life.
Une sorte de rip-off d'Alien, mais en méchant.
Rip-off, soi-disant scientifiquement probable.
Soi-disant scientifiquement probable. Après, on va voir ce que.
Avec Calvin.
Calvin, l'Alien. Ouais, voilà, c'est ça.
Ça, c'était très bon, ça.
Pour voir après ce que Sony va en faire. Mais il y avait cette même idée de jouer sur quelque chose d'organique et d'effrayant.
Tu vois, je pense au fil de notre discussion, je suis en train de penser à un film qui va sortir cette année qui s'appelle Venom. Et il y a ce rapport justement de.
On parle du film Marvel
avec Tom Hardy de Sony. C'est Sony, hein, je crois. Ouais, et tu vois, Venom, c'est une créature.
Ben, Venom, en fait, c'est un humain qui est possédé par un symbiote extraterrestre qui forme une espèce de combinaison sur lui et il devient un monstre.
Et qui pourrait être le symbiote de Life. D'ailleurs, il y a eu cette rumeur.
Il y avait
comme quoi
Life était un spin-off.
Il y avait cette thématique.
De préquel de.
Oui,
de
sur la fin de Life, effectivement.
Écoute, on verra bien s'il raccroche les wagons. Le truc, c'est que du coup, c'est intéressant, tu vois, le parallèle que tu fais finalement. C'est que non, Universal s'est complètement planté de ressusciter son catalogue classique de créatures, c'est-à-dire Frankenstein, la momie, Dracula, l'homme invisible, qui devait être Johnny Depp. Et ce qu'avait opéré Universal comme transformation, c'est qu'avec la momie, avec Tom Cruise, si vous ne l'avez pas vu, on était complètement dans le film de créatures mélangé au film de super-héros. Et on y revient à Venom. Au final, la créature aujourd'hui. finit par un film de super-héros, quoi.
Mais disons qu'on peut dire qu'avant, le film de créature envoyait à des peurs qui étaient très symptomatiques de leur temps. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, c'était du folklore, c'était de la magie. Ça, maintenant, aujourd'hui, la créature est quelque chose de beaucoup plus organique, qui va de pair avec les avancées de la science, les peurs par rapport aux diverses mutations que peuvent s'opérer dans notre corps, que les produits chimiques peuvent s'opérer dans notre corps. Qu'est-ce que va être le monstre de 2018? La créature de 2018, qu'est-ce qu'elle sera? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle peur elle va représenter?
Ok, messieurs. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit état des lieux plutôt intéressant, effectivement. On va suivre tout ça de très près. Est-ce que vous avez une recommandation sur un film de monstre, de créature, un classique éventuellement que vous pourriez recommander chaudement?
Moi, je dirais Le Loup-garou de Londres.
Bah, là, un film de John Landis, c'est Rick Baker aussi au maquillage. Hein. Le Loup-garou est très très beau. Moi, je vais recommander. Alors bon, The Thing, c'est mon. Bon, tout le monde l'a vu. Désolé. The Thing, c'est un petit peu un de mes maîtres à penser. C'est un des plus grands films pour moi. Les créatures, c'est le film de créature ultime. Et du coup, là, j'y pense. Il y a un film de Joe Dante que j'adore, qui s'appelle The Howling.
Ah oui,
génial. Il y a un film de loup-garou. Et alors là, moi, j'aime bien les loup-garous. Et c'est un film de loup-garou magnifique. Ouais, ouais. Les créatures sont super. Il y a des
practical
effects absolument dégueulasses avec des maquillages dégoulinants. Allez le voir, foncez, c'est super.
Alors, moi, ma petite recommandation, elle sera un peu plus fantastique. Ce sera Legend de Ridley Scott.
Ah oui, bah, bien sûr. Ouais.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur Netflix ou sur la Fnac et vous procurez tout ça d'urgence.
Bien sûr, personne ne télécharge ici.
Non, bien sûr que non. Ce podcast est maintenant terminé.
Oh non !
Mais vous savez qu'on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, cool.
Et oui, Ilan, on te retrouve sur cinevibe.fr.
Tout à fait.
Encore un grand merci pour ta participation sur Twitter,
@cinevibefr.
Voilà, Pierre, on te retrouve sur FanFootage.
Ouais, comme d'habitude, fidèle au poste.
FanFootage.fr, exactement. Ce podcast sera disponible sur Séance Radio, sur iTunes, sur SoundCloud et tous les autres agrégateurs. #FanFootage pour partager, commenter, liker. On attend tous vos retours, c'est très important pour nous, vous le savez. On vous souhaite une très bonne séance en compagnie de Guillermo del Toro chez Popwater. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Et puis d'ici là, on vous fait de très gros poutous bien baveux d'amphibiens. Ok les amis,
voilà, bisous.
Allez, salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.